Les moyens de télécommunication, non contents de restreindre l'étendue, abolissent aussi toute durée, tout délai de transmission des messages, des images. Comment vivre vraiment ici si tout est maintenant, interroge Paul Virilio en 2001. La transmission semble avoir été réduite par notre contemporanéité à un acte technique définitoire de nos sociétés dites alors de l'information et de la communication. L'insistance sur la prouesse technique fait la promotion d'une victoire sur le temps, dissociant la transmission des impératifs d'attente qui lui étaient jusque-là inhérents. Quand le romantisme 19e pleurait l'abolition des distances, il appartient à notre temps possiblement néo-romantique de pleurer la fin de la durée, produisant dans l'instabilité du monde liquide, comme l'appelle Zygmunt Bauman, un évanouissement de l'ici et de la capacité à être au monde. Ainsi, les discours sur le contemporain voit-il dans le règne du maintenant une dilution de l'identité dont l'idéologie sociale et politique se fondait jusque-là sur un contrat passé avec la stabilité et l'inscription dans la durée. Il convient à ce titre de noter une distinction de fond entre modernité et postmodernité. Le parti pris de la durée et de la stabilité induit de la modernité qu'elle se pense en termes d'enjeux de rupture vis-à-vis d'un ensemble inscrit dans la pérennisation de l'héritage. En revanche, la postmodernité, construite sur, elle, sur la rupture quotidienne, fait de la transmission un enjeu, l'immédiateté technique faisant tomber le temps long de l'héritage en désuétude. Dans ce paysage postmoderne, qui fait de la distinction une nécessité, l'un ne doit jamais être l'autre, réalisant la prophétie de Walter Benjamin qui déclarait « le cours de l'existence, de l'expérience, a chuté ». Benjamin va plus loin, assurant que, dit-il, « cette pauvreté ne porte pas seulement sur nos expériences privées, mais aussi sur les expériences de l'humanité tout entière ». Cette extension du territoire de l'incommunicabilité au champ de toute l'humanité annonce la fin des grands récits qui, pour Lyotard, caractérisent la postmodernité et, en particulier, le plus important d'entre eux, le récit de l'homme lui-même, dont Francis Fukuyama annonce la fin comme conséquence directe de notre intimité avec la technologie. Paradoxalement, la redéfinition de nos sociétés par la transmission technique, produit un éclatement du récit de l'homme que traduit une expatriation de la transmission pensée comme legs d'expérience et savoir narratif. Le glissement du règne d'une transmission par récit à une transmission par technique accompagnerait ainsi le glissement d'une humanité pensée par récit à une post-humanité pensée par technique, la deuxième répétant à la première ces mots de Bertolt Brecht, « efface tes traces ». Le recours à la technologie engage donc un requestionnement du dialogue entre l'avant et l'après que permet de métaphoriser la logique générationnelle pensée à partir d'un schéma de communication répété, fini, à savoir émetteur adulte, produit un message adressé à un récepteur enfant ou adolescent avec pour finalité de faire du récepteur l'émetteur futur d'un message inchangé, invariant. Que vaut cependant l'expérience transmise par un émetteur humain quand celui-ci me projette déjà comme récepteur possiblement post-humain? De fait, le devenir post-humain semblerait se réaliser dans la mise au ban du prédécesseur humain dont il convient de refouler non seulement les habitudes, mais aussi la mémoire. Précisément, c'est ce que met en scène The Giver, roman pour adolescents de Lois Lowrie, publié en 1993, et dont le titre, traduit par « Le passeur », assume à lui seul un resserrement sur le motif de la transmission. Alors, grosso modo, Jonas, qui est le héros de cette fiction, grandit dans un monde privé par médicamentation à la fois d'émotions, de désirs et de souvenirs du monde d'hier. Les arts, les caprices météorologiques et tous les inattendus ont été expatriés comme tout ce qui, dit-on, n'était pas pratique et a dû tomber en désuétude quand nous en sommes venus, dit-on, hein, à l'identique, c'est-à-dire le choix d'une vie ordonnée, prévisible et sans douleur. Prenant appui sur un personnage biblique refusant, ce fameux Jonas, refusant de transmettre le message confié par l'Éternel, l'autrice propose de métaphoriser l'actualité de ce que nous pourrions appeler une civilisation Jonas, ou, pour faire plaisir à Denis Geffray, une civilisation dans le ventre, qui s'interroge non pas sur ce qu'elle veut transmettre, mais sur son désir même de transmission, en posant la question suivante: n'y a-t-il pas de salut à fuir devant la traditionnelle injonction à dire ? Et j'en viens à mon premier point, transmission et neurotransmission, le destin post-humain. Jonas est désigné par sa communauté pour devenir le nouveau dépositaire de la mémoire, sorte de pharmacon dévolu au fardeau du souvenir de l'ancien monde. Ce faisant, le souvenir est à la fois poison dangereux pour l'immuabilité de la nouvelle société, et également remède pour gérer l'irruption éventuelle de l'inattendu. Figure postmoderne du bouc émissaire, le dépositaire formalise le statut du souvenir devenu promesse de faute dans une société qui prend acte d'une sorte, ce qui serait un échec du travail de mémoire, inefficace, impropre à empêcher quelque catastrophe de se produire, la transmission aurait failli dans sa mission, à savoir nous protéger du pire. C'est donc paradoxalement dans l'avènement de l'identique que la société de Jonas trouve une solution. Plutôt qu'un travail de transmission, celle-ci procède à un travail d'effacement, un oubli nécessaire à la conservation d'un modèle inchangé. Ce monde est habité par une post-humanité qui se caractérise par un empêchement de transmission physiologique, puisque les habitants prennent, dès les prémices de l'adolescence, une pilule chargée de stopper ce qu'ils appellent les stimulations. La post-humanité mise en scène est donc celle qui, d'après Fukuyama, émerge de la progression des neurosciences modernes et des neurotransmetteurs qui, dit-il, contrôlent le fonctionnement des synapses nerveuses, et la transmission des signaux à travers les neurones du cerveau. Le niveau de ces neurotransmetteurs et la façon dont ils interagissent affectent directement nos sentiments subjectifs de bien-être, d'estime de soi, de peur, etc. Et Fukuyama ajoute: longtemps avant que l'ingénierie génétique ne devienne une possibilité, la connaissance de la chimie cérébrale et la capacité de manipulation deviendront une importante source de contrôle du comportement qui aura des implications politiques importantes. En effet, la neurotransmission à l'œuvre dans The Giver canalise les stimulations et annule les souvenirs, activant un sentiment de satisfaction du temps présent. Ce faisant, le modèle de la transmission comme savoir narratif disparaît au profit d'une déliaison et d'une transmission comme strict savoir informatif. Chez Laurie, l'avènement de cette société de l'information et de la communication privilégie nettement ce que Alexandre Geffen appelle le pouvoir des liens faibles. La fiction présente alors un déséquilibre entre, d'une part, l'accentuation d'une transmission technique et, d'autre part, l'évacuation d'une transmission sensible que serait le don d'expérience par le discours. Le succès de cette évacuation se manifeste dans l'incapacité de Jonas à comprendre l'enjeu de sa formation n'ayant aucune réalité à associer à l'idée de transmission. Et voilà, je vous lis le dialogue qui se joue entre lui et son formateur, qui est le dépositaire actuel, et qui lui dit la chose suivante, hein: pour dire les choses simplement, bien que cela ne soit pas vraiment simple du tout, ma tâche consiste à te transmettre tous les souvenirs que j'ai en moi, les souvenirs du passé. Ce à quoi Jonas répond: monsieur, cela m'intéresserait beaucoup d'entendre l'histoire de votre vie et d'écouter vos souvenirs. ça m'intéresse vraiment. Je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Mais je ne comprends pas bien pourquoi c'est tellement important. Je pourrais avoir un métier d'adulte dans la communauté et pendant mes moments de loisirs, je pourrais venir écouter les histoires de votre enfance. Ça me plairait. En fait, je l'ai déjà fait à la maison des anciens. Les anciens aiment bien parler de leur enfance et c'est souvent amusant de les écouter. Mais écouter n'est pas transmettre. Et la fiction de Laurie insiste précisément sur la disparition de la transmission comme compétence de socialisation, ce que l'autrice traduit par un projet de relégation de la mémoire, ce qui me fait arriver à mon deuxième point, règne du temps présent, l'inchangement c'est maintenant. Émancipation d'un état antérieur, le passage de l'humain au post-humain permet d'entériner d'une certaine manière les discours sur l'affranchissement vis-à-vis des règles et de l'autorité qui parcourent la seconde moitié du XXe siècle. Cet égalitarisme a pour conséquence de briser l'indissociation que fait notamment Hannah Arendt entre transmission et autorité dans la crise de la culture. Jonas se révèle ainsi incapable d'envisager le rapport narratif à autrui sous un autre angle que celui de l'écoute bienveillante et surtout sans conséquence. Le récit de l'autre ne saurait agir sur moi comme le suggère ou le suggérerait la dimension autoritaire et la portée performative de la transmission. Le dépassement de l'humain par le post-humain se joue donc dans un refus de la passation envisagée comme acceptation d'une référence supérieure, selon l'expression de Zaki Laïdi, qui précise que rien n'est désormais plus étranger aux sociétés postmodernes que l'idée d'une paternité symbolique autorisant une prise de parole. À travers la figure du dépositaire, Lois Laurie reprend volontairement l'image la plus traditionnelle de l'autorité pour mieux la signifier et exacerber ainsi la tendance postmoderne à l'intransmission comme mise en échec nécessaire de toute autorité. À l'instar de Fukuyama, pour qui l'avènement de la démocratie libérale supprime tout besoin de futurs différents, cette fameuse fin de l'histoire dont parle Fukuyama, Laïdi insiste sur l'incapacité désormais pour nos sociétés, dit-il, à se fonder sur un autre principe que celui de la démocratie. Fin de l'histoire et égalitarisme s'appuient conjointement sur l'idée que la mémoire ne serait nécessaire que dans l'élaboration d'un futur différent, entendons, inégal. Or, si le sacre du présent démocratique rend obsolète le besoin de futurs différents, le travail de mémoire lui-même n'a plus lieu d'être, la fin du désir de futur étant signée d'une fin du besoin de récit du passé. Malgré son préfixe temporel, la post-humanité apparaît ainsi chez Lois Laurie comme un temps sans histoire au sein duquel l'autorité de la transmission est obstacle car suppose l'inscription dans un temps narrativisé, produisant alors le point de comparaison à partir duquel penser et différencier le maintenant et l'après. C'est, somme toute, l'autorité de la transmission qui produirait l'opportunité de la transfiguration. Par conséquent, dans ce temps sans histoire, l'idée de transmission devient même suspecte. C'est d'ailleurs l'expérience du souvenir confié par autrui qui développe chez le personnage de Jonas le désir soudain de changer les règles de l'identique, lequel est construit sur deux éléments qui justement sont pour Zaki Laïdi constitutifs de ce fameux sacre du présent, ces deux éléments qui sont la limitation de la transmission à la sphère des savoirs, et non plus à la sphère du coup de la morale, de l'éthique qui passe par la narration, et deuxième élément, la destruction des intermédiaires. De fait, dans The Giver, l'intermédiaire est à la fois réduit à l'isolement, mis au ban, mais aussi et surtout rendu muet par l'interdiction de partager ses souvenirs, cédant le champ de la transmission à la seule connaissance fonctionnelle. En muselant le discours de la mémoire, la fiction métaphorise ce qui serait notre désapprentissage de la transmission par réduction, voire expatriation de l'argument d'autorité, réduction qui aurait paradoxalement pour conséquence l'émergence, finalement une évacuation d'autorité, qui a pour conséquence l'émergence d'un autoritarisme du temps présent. Le dépositaire, imaginé par Laurie, vient ainsi figurer ce que Maëlle Renoir désigne, s'agissant notamment de Google, comme « machine à se souvenir de tout » ou encore « technologie de la mémoire collective extériorisée ». L'archaïsme du savoir narratif caractérise alors une post-humanité élaborée par production d'une mémoire externe infinie et abdication subséquente de la mémoire interne individuelle. Dans La fin de l'homme, Fukuyama pose la question suivante. Pourquoi ne pas accepter notre destinée en tant que créature qui se modifie elle-même ? Chez Laurie, cette destinée s'accomplit comme le règne de la mémoire technologique, entraînant le règne de l'immuable, la post-humanité se définissant alors par la transfiguration de l'espèce vers l'inchangé, c'est-à-dire que la fin de l'homme, ce serait son évolution vers la fin de l'évolution. Et j'en viens là-dessus à mon troisième et dernier point, autorité et recréation, l'expérience comme conscience critique. Il n'est pas anodin, eu égard à cette privation d'évolution, que Laurie ait choisi la fiction adolescente, entendons une fiction de la croissance et de la mise en scène du grandir. Celle-ci offre de mettre en scène transmission et autorité à partir de la hiérarchisation des âges et de la force de l'antérieur, ce que Yves Bonnardel appelle la domination des adultes, l'oppression des mineurs, ou que Alain Renaud désigne en reprenant Max Weber comme le monopole de l'autorité légitime. Cette autorité légitime se trouve cependant minée, selon Renaud, et je le cite, dans une société et dans une culture qui sont traversées par une fantastique dynamique d'égalisation, fin de citation, c'est-à-dire une dynamique de réévaluation de tout par le prisme de la mêmeté généralisée. Gérard Mendel rappelle quant à lui que l'une des fonctions de l'autorité est d'écraser les conflits pouvant apparaître au sein d'une société, ou plutôt précise-t-il, l'autorité écrase l'un des deux termes du conflit et l'empêche, c'est ça qui est important, l'empêche de grandir, de prendre forme et d'exercer son influence. L'autorité empêcherait de grandir. L'autoritarisme du présent, qui, chez Lois Laurie, se traduit par le choix de l'identique, auquel elle donne d'ailleurs symptomatiquement une majuscule, comme Mendel donne à l'autorité une majuscule, cet autoritarisme du présent permet à l'autrice de suggérer l'avènement d'une société enfant, c'est-à-dire soumise à l'autorité d'un égalitarisme sans transmission, sorte de dogme dont résulterait un empêchement du grandir, privation notamment dans The Giver de l'accès au désir sexuel et privation également de l'accès au langage par restriction de son champ, simplification, euphémisation des émotions en particulier, obsolescence du vocabulaire sensible, etc. etc. Et en insistant sur le langage, Laurie caractérise un rapport tout à fait contemporain, un rapport, disons, informatif au discours, qui fait écrire à Giorgio Agamben, dans un texte qui n'est pas anodin ici, puisqu'il est intitulé « Enfance et histoire », qui fait écrire à Agamben que l'une des tâches les plus urgentes pour la pensée contemporaine est certainement de redéfinir le concept de « transcendantal » en fonction de son rapport au langage. Cette tâche est précisément celle qui est dévolue à Jonas dans le roman de Laurie. Jonas, dont la capacité, dit-on, à ce qu'on appelle voir au-delà, l'engage à produire du langage au-delà de la vision des autres, éveillant chez lui le sentiment de l'expérience qui, pour Agamben, trouve son nécessaire corrélat moins dans la connaissance que dans l'autorité, c'est-à-dire dans la parole et dans le récit, et pourrions-nous ajouter, c'est-à-dire dans la transmission. Par transcendance, par capacité à voir au-delà, Jonas accède donc à l'expérience, c'est-à-dire au seuil au-delà duquel cesse l'enfant, mais que les membres de sa communauté ne franchissent jamais. Cette expérience, vécue au cœur d'une société enfant, c'est-à-dire une société laissée en deçà du seuil de l'expérience, le conduit par conséquent à la révélation de l'incommunicabilité et de l'esseulement. Et je cite Agamben, « Car l'homme contemporain, tout comme il a été privé de sa biographie, s'est trouvé dépossédé de son expérience, peut-être même l'incapacité d'effectuer et de transmettre des expériences est-elle l'une des rares données sûres dont il dispose sur sa propre condition, ce dont témoigne dans ce roman la marginalité du dépositaire. La fin de la communicabilité et de la transmission produirait bien une société contemporaine tournée vers une tentation de l'enfance, c'est-à-dire de l'infance sans parole, ou ce que Agamben désigne comme une expérience muette ou enfance de l'expérience. Ainsi, si expérience muette est enfance de l'expérience, l'accomplissement du grandir serait dépendant de la mise en discours, la transmission apparaissant comme la faculté narrative à faire émerger l'adulte des expériences muettes de l'enfant. La dystopie posthumaine de Laurie permet alors de métaphoriser, par le biais de la médicamentation et de la neurotransmission, une anesthésie contemporaine du langage au profit d'une passion artificielle de l'enfance, vécue selon les mots que j'emprunte à Julia Kristeva comme valeur refuge d'une société sans valeur, entendons refuge face à l'expérience faite de nous-mêmes. L'originalité de Lois Laurie est cependant de ne pas céder à ce qui pourrait être un utopisme de l'enfance, puisque l'avalement de la pilule transforme chaque corps en monstre individuel participant du monstre collectif de l'identique. L'abandon au temps présent qui caractérise la société enfant, loin de nourrir ce qui pourrait être un éveil nietzschéen, c'est-à-dire l'enfant comme troisième dernier stade de l'esprit de l'homme, prend dans The Giver le parti pris des automatismes qui, pour Jean-Michel Besnier, s'oppose à la conscience. Et je cite Besnier, « Être conscient, c'est toujours déjà s'opposer et rien n'est plus nécessaire quand l'abandon aux automatismes de toutes sortes promet de nous délivrer des inquiétudes existentielles. » C'est évidemment exactement ce qui se passe dans le roman de Laurie. À ce titre, l'autorité de la transmission ne vaut pas tant chez Laurie pour son contenu que pour sa forme, à savoir le récit dans lequel il m'appartient de m'inscrire à partir de ma singularité. L'autorité de la transmission n'est donc pas envisagée comme un mouvement unilatéral, mais s'apparente davantage à la conscience critique telle que l'a définie Georges Poulet, c'est-à-dire, dit-il, la coïncidence de deux consciences, une image opposée justement à celle qui serait de l'imposition d'une conscience dominante sur une conscience écrasée, rendue muette et n'accédant au discours que dans la répétition, c'est-à-dire au non-discours. Au contraire, la conscience critique issue du rapport d'autorité de la transmission se traduit par l'usage de deux compétences qui viennent en réalité contrecarrer la logique de la stricte reconduite, à savoir les deux compétences sur lesquelles insiste Georges Poulet, à savoir l'imagination imitatrice, hein, un oxymore par lequel précisément l'imitation passe aussi par l'imagination, et deuxième compétence qui m'intéresse particulièrement, c'est le langage recréateur. En somme, et je conclus là-dessus, le génie de la recréation n'apparaît qu'en frottant la lampe de la création, comme si la transmission ne valait véritablement que dans une non-poursuite qui, cependant, rend hommage à l'autorité du rêve dont elle est, dont elle se constitue, sorte de promesse d'un attachement au détachement que résumaient déjà les mots célèbres d'Éluard « Tu rêvais d'être libre et je te continue ». Je vous remercie.